Joël Berker dans les studios, comme tous les jeudis, cette archive à l'appui. On va entamer une série sur les archives notariales. Joël Berker, bonjour. Pourquoi cette série?
Tout simplement parce que nous faisons actuellement aux archives départementales un gros travail sur les notaires et notamment sur l'histoire du notariat, puisque nous prévoyons une exposition pour la fin juin, une exposition pour l'été et sur la naissance du notariat, donc avec ce passage de l'Italie à la Provence et en Languedoc, et que par ailleurs évidemment nous terminerons cette exposition par un colloque fin septembre sur le notariat, et donc ce sera un colloque international.
Ok, le premier document de cette série, on est en 1710 à Montredon.
Tout à fait. Et donc, il s'agit d'un acte passé devant Maître Barthès, notaire à Montredon. Et voici ce que l'on dit. Au nom de Dieu, soit fait ainsi. Sache tous présents et à venir que l'an de grâce 1710 est le 17e jour du mois d'août, avant midi, au massage de Savin, dans la maison du testateur banommé, baronnie de Montredon, diocèse de Castres, sénéchaussée de Carcassonne, régnant très chrétien prince Louis par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, par devant moi notaire royal sous-signé, représentant les personnes banommées, a été constitué en sa personne Pierre Théroux laboureur pour entendre son testament.
Je note une première curiosité, c'est la forme de l'acte, sa construction, le vocabulaire employé par rapport au statut, cet homme est un laboureur.
Oui, tout à fait. Donc c'est vraiment donc c'est intéressant de noter un peu cette manière de constituer les actes. Ce qu'on fait, c'est de la diplomatique, et tout simplement pour voir apparaître les personnages, évidemment le règne, mais par ailleurs avec des formules sache tous présents et à venir, ce qui signifie que évidemment c'est un acte que tout le monde doit entendre pour pas qu'il n'y ait de contestation, puisqu'il s'agit d'un testament.
On est au début du 18e siècle, c'est seulement à cette période que plus naturellement, de manière plus courante, on va rédiger des testaments. En fait, on commence à rentrer dans une époque où on prend un petit peu plus soin de sa petite personne.
Oui, c'est ce qui est intéressant lorsqu'on regarde les testaments, c'est tout simplement leur évolution justement à travers les formules, et on se rend compte que depuis quelque temps justement on a tendance à préparer sa mort, et donc il y a toute une mise en scène où on se recommande à Dieu, donc il y a un certain nombre de formules, et avant même de faire la liste des biens et parler des héritiers, eh bien on va parler évidemment de sa mort et puis des précautions que l'on prend, c'est-à-dire qu'on va faire dire des messes et évidemment, il y a cette situation qui fait que on a besoin évidemment de passer dans l'au-delà, donc évidemment avant de s'exprimer sur le sujet. Et ça, c'est vrai que c'est depuis que l'on pense un peu plus à soi, qu'on cherche plus de confort, donc on est peut-être un peu plus individuel, alors qu'auparavant la mort était très naturelle, c'était la suite, et donc on n'avait pas besoin de s'y préparer. Donc c'était fait ainsi.
Ça dit aussi tout sur l'évolution du statut du notaire, qui devient vraiment quelqu'un de très très important dans la vie et à différents moments de la vie.
Oui, tout à fait. Et ça, depuis sa création. C'est vrai que c'était l'homme idéal quand il est arrivé au XIIe et XIIIe siècle, tout simplement parce que on avait besoin d'authentifier les actes et on avait besoin d'écrits. C'est-à-dire que le contrôle, la coutume comme dans le Nord, n'était pas suffisante. De plus, quand il s'agissait de passer un acte, il fallait trouver des témoins, qui ces témoins disparaissaient ou mouraient. Donc dans l'idéal, c'était évidemment de rédiger des actes en bonne forme, évidemment, avec une authentification, et c'est ce que fera le notaire dès sa création, puisqu'il mettra son saint manuel, ce qui fait que dès lors qu'il a mis son saint manuel, cet acte est authentifié.
Traditionnellement, en Languedoc, on est plutôt sur un héritier unique. Pourquoi ?
Oui, tout à fait. Tout simplement parce que depuis très très longtemps, donc c'est dans l'histoire du Languedoc, il y a beaucoup de petits propriétaires, et il est évident que la petite propriété, dès lors qu'on va la diviser entre différents héritiers, évidemment, se morcelle, devient petite et n'est plus rentable. Donc il y a cette idée de transmettre un patrimoine dans son unité, et donc il faut choisir un des enfants pour léguer ce patrimoine, et il y aura des compensations autres concernant les autres héritiers.
C'est souvent l'aîné qui va hériter.
C'est souvent l'aîné, mais ce n'est pas une obligation. C'est-à-dire que le père a toute puissance, justement, de privilégier un autre enfant s'il le désire.
Et puis dans la série imaginaire, on a tendance à voir les familles assez nombreuses à cette époque. C'est pas forcément le cas.
Non, ce n'est pas forcément le cas, parce que c'est vrai que dès lors que la propriété est petite, on ne peut pas admettre au sein de l'oustal une famille nombreuse. Donc dès que évidemment on a des difficultés, eh bien on va faire en sorte de réduire cette famille, ou du moins de ne pas accepter des membres supplémentaires pour pouvoir subvenir aux besoins de chacun.
Rappelez-nous la définition exacte de l'oustal.
Donc l'oustal, c'est la maison, évidemment, et puis donc où on vit à même pot et feu, donc autour de l'âtre, avec une famille patriarcale et qui a un chef de famille et où chacun a sa position.
Merci Joël Verker, on se donne rendez-vous la semaine prochaine avec un autre document tiré de cette série sur les archives notariales sur lesquelles vous travaillez en ce moment aux archives départementales du Tarn.